Eh bien, nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier livre des rois. Premier livre des rois, au chapitre 16. Premier livre des rois, je vous laisse le temps de trouver le passage. 1 roi 16, dont je lirai pour vous les versets 23 à 34, et nous y ajouterons simplement le premier verset du chapitre suivant, du chapitre 17. Donc, 1 roi 16, 23, où il est écrit « La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirsa, il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait, ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Omri se coucha avec ses pères, il fut enterré à Samarie, et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ebaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Mon grand combat des derniers jours a été de discerner ce que je devais partager avec vous dans cette introduction. Fallait-il entrer directement dans le vif de notre sujet, torrent d'hier et d'aujourd'hui, en court-circuitant certaines indications, remarques, descriptions fondamentales, ou fallait-il donc prendre le temps de s'arrêter sur le contexte, sur l'arrière-plan de notre sujet? Et c'est donc ce matin, il y a peu de moments, que après avoir beaucoup réfléchi et prié, il m'a semblé absolument nécessaire, même si ce n'est pas forcément le plus agréable, de consacrer en tout cas cette première étape de notre itinéraire ensemble à nous pencher sur le contexte de cette histoire du torrent de Kérit. Et je le fais parce que Dieu a inspiré le rédacteur de ce premier livre des Rois de telle manière qu'il y ait une insistance particulière en introduction aux événements dans lesquels Élie intervient, qu'il y ait une place particulière donnée au contexte de la royauté d'Akab et de sa femme Jézabel. Vous l'avez remarqué, hein, nous avons lu les versets 23 à 34 qui sont très très importants parce qu'ils vont donner un relief particulièrement saisissant à ce que nous allons voir ensuite. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour cette étude, nous considérions aussi rapidement que possible quatre points importants comme préalable à notre analyse de l'attitude d'Élie ou de la nôtre au bord du torrent de Kérit. Nous allons successivement évoquer l'homme, Élie en tant qu'homme, ensuite son époque, troisièmement ce que nous appellerons sa piété dans le sens qu'a le mot dans les Écritures, quoi qu'il y en ait en tout cas au moins deux dans la langue grecque du Nouveau Testament, je vais parler de la qualité de sa relation avec Dieu se traduisant par un service de qualité. Ça, c'est la piété dans la vie du prophète Élie. Donc, nous avons vu l'homme, son époque, sa piété et son message, puisque vous l'avez remarqué, une bombe explose dès l'aube du ministère du prophète dans le verset premier. Et ce message est aussi riche d'enseignements et va préparer toute la suite. L'homme, son époque, sa piété, son message. Le premier mot du chapitre 17 est tout simple, hein, c'est le mot Élie. Élie. Pour certains, c'est un mot qui laisse plus ou moins indifférent, mais pour d'autres, qui ont quelque peu fréquenté le personnage, c'est un mot qui vous donne comme un choc électrique. Parce qu'Élie, eh bien Élie, ce n'est pas n'importe qui. Élie, personnalité exceptionnelle. Prophète hors gabarit. Prophète à la vie solitaire et insolite. J'ai sous les yeux toute une collection de phrases relevées dans un certain nombre d'ouvrages et qui vont toutes dans le même sens. Le nouveau dictionnaire biblique publié aux éditions Emmaüs le présente comme le plus formidable prophète d'Israël. On doit considérer Élie, c'est un autre auteur, comme la plus grande personnalité religieuse qui ait été suscité après Moïse. Élie est le plus grand, le plus surprenant des prophètes d'action de l'Ancien Testament. Il apparut soudain dans l'histoire comme un éclair sortant des nuages, sa parole était enflammée comme une torche. Un rabbin écrira ceci, la fascination exercée par Élie est exceptionnelle. Elle tient tout d'abord à cet élément de mystère qui enveloppe toute son existence. Il disparaît comme il surgit, d'une manière surnaturelle. Quelqu'un d'autre décrire, il est venu comme un tourbillon, il a brûlé comme le feu, et il est disparu dans un tourbillon de feu. On l'a surnommé le prophète de feu, puisque dans 4 des 6 chapitres qui racontent quelques aspects de son ministère, le feu est présent, d'une manière ou d'une autre. Un autre auteur dira, c'est un mont sinaïque cet homme. un homme dans le cœur duquel grondait la tempête. Et enfin, une dernière remarque d'un commentateur, ce géant parmi les hommes, en comparaison duquel nous nous sentons tous comme des petits nains. Vous voyez que, avec un vocabulaire très très varié, ceux qui ont scruté en profondeur ce que nous savons de l'histoire d'Élie dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament d'ailleurs aussi, se rejoignent pour en souligner la personnalité exceptionnelle. Il est intéressant de constater que le nom d'Élie est mentionné plus que celui de tout autre prophète dans le Nouveau Testament. Je dis bien que tout autre prophète. Des hommes comme Moïse, comme David et d'autres ont eu dans leur vie une dimension prophétique. Ils sont parfois appelés prophètes, mais ce n'était pas la dominante de leur ministère, n'est-ce pas? Ils ont été utilisés comme prophètes, mais au sein d'autres fonctions. Élie, lui, était vraiment un prophète pur sucre, comme on dit au Québec, hein? Un vrai de vrai. Et à ce titre-là, il est cité plus que tous les autres vrais prophètes qui ont eu cette fonction au sein du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Vous connaissez ce texte de Matthieu 3, verset 4, Jean-Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et quand on connaît tant soit peu Jean-Baptiste, on peut mieux comprendre ce que cela voulait dire concernant le prophète Élie. Élie, présent sur la montagne de la Transfiguration, il y était comme représentant des prophètes, c'est intéressant qu'il ait été choisi pour être le représentant des prophètes sur la montagne de la Transfiguration, là où Moïse était le représentant de la loi, hein, la loi mosaïque, comme on le dit fréquemment. Et puis, vous avez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, cette activité des deux témoins qui font clairement allusion, d'une part à Moïse, et d'autre part à Élie, puisqu'il est question à la fois de dix plaies et du ciel qui ne donne plus la pluie. Faut-il ajouter qu'aujourd'hui encore, au sein du peuple juif, le prophète Élie continue à occuper une place de choix. Il est l'hôte invisible des grandes cérémonies rituelles, notamment pour la soirée pascale, où un fauteuil et une coupe de vin lui sont réservés, mais il est aussi l'hôte familier des maisons d'études, il est l'ami des pauvres, le compagnon des malheureux. Et à l'issue de chaque sabbat, des chants nostalgiques l'invoquent, remplis de l'attente du Messie. Donc, nous avons l'honneur, le privilège, de côtoyer jusqu'à jeudi un personnage d'envergure. Mais il faut le dire vite. Il faut le dire vite, parce que le texte d'un roi 17, au verset 1er, ajoute aussitôt Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. Alors on sait donc qu'il était originaire de Tishbé, un obscur village de Transjordanie. Vous voyez comment le situer par rapport à, si vous voulez, dans la Jordanie actuelle, si vous voulez. Tishbé, on ne sait même pas très bien où le situer. C'est le grand flou à ce sujet. Et il est présenté en plus comme un des habitants. Un des habitants. La Bible est totalement silencieuse sur sa famille, totalement silencieuse sur son passé. Dans la tradition juive, on a tendance à souligner qu'il était peut-être bûcheron. Peut-être était-il berger ou encore paysan. Toujours est-il qu'il a vécu dans les vastes forêts de chênes, de térébintes, il y avait peut-être aussi un peu de cèdre, qui couvraient alors les montagnes de cette région de Galaad. Ceci expliquerait la résistance physique étonnante et le caractère trempé comme l'acier de ce rugueux, rugueux ô combien champion de Dieu. Élie était un homme habitué aux solitudes sauvages des ravins montagneux de cette contrée de Galade qui est quand même mentionnée quelques 100 fois environ dans nos Bibles. Voilà donc pour le personnage. Un personnage donc finalement tout à fait ordinaire. Il n'a pas un CV, comme on dit aujourd'hui, prestigieux. Il n'a pas une carte d'identité et une carte de visite extraordinaire. Je peux tout de même vous annoncer, ça c'est un scoop pour ce matin, qu'il a son bac. Ou sa maturité, comme on dit en suspens, son bac. Là. Il a son bac, brevet d'approbation de Christ. B.A.C. C'est un homme de Dieu qui a le brevet d'approbation d'en haut, nous disons de Christ, dans la Nouvelle Alliance. Personnage ordinaire, personnage dont Jacques dira qu'il était un homme de la même nature que nous. C'était notre thème, ici, l'an dernier, puisque nous nous sommes penchés, pendant 9 études, je crois aussi, sur la dépression d'Élie. Un homme fragile, vulnérable, comme nous allons le voir. Un homme fidèle, commence par F, et fragile. Fidèle, fragile. Il se trouve que dans le plan de Dieu, ces deux mots peuvent marcher de pair. Un homme soumis aux mêmes misères que nous, aux mêmes infirmités que nous, un pauvre homme comme nous. C'est ainsi que rendra Jacques 5, 17, l'un des traducteurs. Moi, j'ai mis à côté un pauvre type comme nous. Voilà qui nous le rend bien sympathique, ce prophète absolument remarquable. Nous avons donc dit quelques mots sur l'homme, son époque, son époque. L'une des plus sombres de l'histoire d'Israël. Nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ. 9e siècle avant Jésus-Christ, puisque le règne d'Akab ira de 874 à 853, 852 environ. Et c'est donc Akab qui est la référence principale du ministère d'Élie, même si le ministère d'Élie ira au-delà de la royauté d'Akab. Et vous savez, quand on prononce Akab, ça veut tout dire. D'ailleurs, il est intéressant de constater, ça ne fait pas tellement longtemps que je m'en suis rendu compte, que Akab servait dans l'Ancien Testament de référence au roi le plus abominable du royaume du sud, de Juda. Nous allons parler de schisme rapidement. Le roi le plus abominable du royaume du sud, avec sa capitale, Jérusalem, le royaume de Juda, n'est-ce pas, s'est appelé Manassé. Et Manassé, qui était fils du roi Ézéchias et qui a eu la royauté la plus longue, 55 ans, a eu une royauté absolument désastreuse pour Juda. Juda ne s'est jamais relevé de toute l'infidélité du roi Manassé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 2 Rois 21, dans deux versets de ce chapitre 21 de 2 Rois, les versets 3 et 13, il y a une allusion à Akab, qui permet de souligner qu'au nord, Akab a été le roi le plus mauvais de tous les rois du royaume du nord. Au sud, Manassé a été de loin le plus mauvais des rois du royaume du sud. Faut-il ajouter, mais ce n'est pas notre sujet, mais je l'ajoute quand même, que ces deux rois à un moment donné de leur vie, se sont profondément humiliés, ont plaidé coupables, ont été saisis au fond de leur personnalité par la crainte du Dieu juste et saint. Et parce qu'ils ont plaidé coupables, ils ont connu, ils ont expérimenté dans leur vie la grâce de Dieu, la générosité de Dieu. Et nous en avons des preuves absolument patentes dans les Écritures. Il y a là un message tellement bienfaisant que je tombe et que je tombe au plus bas. La grâce de Dieu qui s'est manifestée, qui a explosé à son summum dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. La grâce de Dieu ira jusque-là, parce que sur la croix, Jésus-Christ est descendu encore plus bas que le plus vil des pécheurs sur cette terre peut descendre. Voilà qui peut beaucoup, beaucoup nous encourager si nous sommes poursuivis par les accusations perfides de la puissance des ténèbres qui voudraient nous dire qu'il n'y a plus aucun espoir pour nous. Si pour Akab et Manassé s'est levée une aurore d'espérance, à combien plus forte raison cela est-il vrai pour chacun d'entre nous. Alors pour comprendre cette période extrêmement sombre de l'histoire d'Israël, il vaut la peine précisément de revenir en arrière comme nous l'avons fait dans ce chapitre 16 à partir du 23 et même avant. Alors je vais résumer, si vous ne retenez pas, ce n'est pas un drame. Mais ce que je souhaite, c'est que vous gardiez des grandes lignes d'impression, n'est-ce pas, dans votre cœur. Je demande à Dieu qu'il creuse des sillons de profondes impressions concernant ce qui se passait à cette époque et qui a rendu le ministère du prophète Élie à la fois si nécessaire et si courageux, qui lui a donné un tel relief. Remontons une soixantaine d'années avant le début du règne d'Akab. Une soixantaine d'années auparavant, c'est le moment du schisme très douloureux au sein du peuple d'Israël, après la disparition de Salomon. Nous sommes en 931 avant Jésus-Christ, et donc Israël est déchiré. D'un côté, Roboam, roi, donc premier roi de ce petit royaume de Juda, avec sa capitale Jérusalem, mais dans la droite ligne de David et de Salomon. Et puis de l'autre côté, Jéroboam premier, puisqu'il y en a eu deux. Jéroboam qui va fonder le royaume du Nord avec ses 10 tribus et sa capitale qui ne sera pas Samarie puisqu'elle intervient après, nous l'avons lu, qui sera Sichem qui a joué un rôle très très important dans l'histoire du peuple d'Israël dans l'ancienne alliance, puis ce sera Tirza qui est un peu plus au nord. Et ce qui est important à retenir, parce que ça reste la toile de fond de l'histoire d'Élie, c'est que Jéroboam va donc créer en quelque sorte de toute pièce un faux culte centré sur deux veaux, n'est-ce pas, deux idoles horribles qu'il va placer aux extrémités nord et à l'extrémité sud du royaume d'Israël, respectivement donc à Dan et à Bethel. Démarrage d'un culte idolâtre avec ses veaux d'or, et pour Jéroboam, ses veaux d'or, c'est l'Éternel, n'est-ce pas? Il assimile l'Éternel à ses veaux d'or. Quand vous regardez ses veaux d'or, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte, auquel vous avez affaire. Il va créer un sacerdoce, un corps de sacrificateurs parallèle, un système de fêtes parallèle. Il va mettre en place, n'est-ce pas, toute une structure religieuse de manière à ne pas perdre ceux qui seraient tentés d'aller vers Jérusalem pour continuer à rendre un culte à l'Éternel, à Jérusalem. Il entraîne donc tous ces sujets dans un faux culte répugnant. Et ainsi, il pêche gravement contre l'Éternel. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va voir le résultat très rapidement sur ses successeurs. Avant Akab, 6 mauvais rois vont se succéder. 3 de ces rois auront une fin tragique, 2 d'entre eux seront assassinés après un très court règne, le 3e va régner 7 jours, il va mettre le feu au palais, il va périr dans les flammes. Il va y avoir ensuite 4 années de guerre civile, vous voyez que ce n'est pas beau. 4 années de guerre civile. Et au bout de ces 4 années de guerre civile, enfin, Omri, le père d'Akab, est reconnu comme roi par l'ensemble du royaume. Voyez toutes ces convulsions qui ressemblent étrangement à toutes les convulsions que vit notre monde moderne à cause de tous les veaux d'or qui trônent à tous les coins de rue aujourd'hui. C'est là un des grands enseignements à retirer pour notre époque. Ces choses ont été écrites pour montrer que chaque fois qu'un pays et qu'un gouvernement se laisse aller au refus de Dieu, à l'idolâtrie, à toutes les formes répugnantes d'idolâtrie moderne, les résultats scabreux, scandaleux, ne manquent pas de se produire ensuite. Alors quand Omri monte sur le trône, c'est un tournant dans l'histoire du royaume du Nord. Parce que Omri va être un roi brillant. Il va être un personnage assez prestigieux. Nous sommes dans une période où, curieusement, sur le plan matériel, Israël, tout comme le royaume de Juda, se porte bien. C'est l'âge d'or, n'est-ce pas, dans le niveau de vie du royaume du Nord et du royaume du Sud. Mais parallèlement au matérialisme de ces deux royaumes, il y a alors des scandales et une situation de détérioration spirituelle de plus en plus catastrophique. Omri va avoir une politique d'alliance. D'alliance dans le domaine économique, dans le domaine militaire, avec ses voisins. L'habileté d'Omri, qui sera reconnue par tous les États autour d'Israël, va se situer à ce niveau. Il va tisser toute une toile de relations avec toutes les entités politiques autour du royaume du Nord. Et d'ailleurs, le royaume du Nord s'appellera royaume d'Omri. Et pendant 150 ans, même après la mort d'Omri, on appellera encore le royaume du Nord de cette manière. Tellement Omri aura été reconnu dans toute cette région comme un souverain absolument remarquable en tant que politicien, en tant que gestionnaire, en tant qu'administrateur du royaume d'Israël. Mais le jugement de Dieu est différent. Vous avez sans doute remarqué au verset 1 roi 16, verset 25-26, « Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ah, jugement des hommes, jugement de Dieu. Quelle différence. Dieu n'est pas d'accord avec l'évaluation qui est faite dans la région de la royauté d'Omri. Pourquoi? Parce que rien n'a changé dans le domaine spirituel. Plus encore, la situation s'est aggravée. Tout simplement parce que Omri, dans sa politique d'alliance avec les pays voisins, s'est engagé à établir une alliance très étroite avec la Phénicie, si vous voulez, une partie du Liban actuel. Il entretient des relations qui deviennent de plus en plus étroites, et pour consolider ces relations politiques avec la Phénicie, il fait ce qu'on a souvent fait dans l'histoire, il contracte une alliance matrimoniale. Et ça a souvent été un drame dans l'histoire du peuple d'Israël, puisque il va donner en quelque sorte son fils Akab en mariage à la fille d'un roi sidonien, Edbaal, qui était en même temps un grand prêtre d'Astarté. Cette femme, vous la connaissez, c'est Jézabel. Et le problème de cette alliance matrimoniale, c'est qu'elle va permettre, quand Akab monte sur le trône, elle va permettre l'entrée officielle de ce couple, Baal et Astarté, phénicien, n'est-ce pas, divinité phénicienne, entrée officielle dans le royaume d'Israël. Donc au moment où Élie va entrer en fonction, vous avez toujours ce culte des deux veaux d'or, qui est infect au regard de Dieu et qui entraîne toutes sortes de conséquences tragiques, mais sur ce culte d'infidélité à l'Éternel, c'est greffé maintenant, de plus en plus officiellement, un culte aux divinités phéniciennes, Baal et Astarté. Baal existe en Canaan, mais le Baal phénicien est pire que la divinité cananéenne qui était adorée jusque-là. Alors, dans ce culte rendu au Baal et à l'Astarté phénicienne, vous avez les gens donc qui se lacèrent, vous avez le cas dans 1 Roi 18, n'est-ce pas, sur le mont Carmel, vous avez les enfants qui sont offerts en sacrifice, vous avez la prostitution sacrée, vous avez les choses les plus abominables qui existaient déjà avec le Baal cananéen, mais vous avez aussi les orgies phéniciennes. Le Baal phénicien, c'était un Baal auquel on rendait ce qu'on appelle un culte orgiaque, c'est-à-dire qu'on faisait des grands festins, on buvait beaucoup, il se passait des choses absolument innommables. Le culte phénicien était plus horrible encore que le culte cananéen, n'est-ce pas? Alors, vous voyez un petit peu la situation telle qu'elle se développe en Israël à partir du début du règne d'Akab, flanqué de son épouse, l'infâme Jézabel. L'homme, Akab, est sans caractère. C'est un faible, irrésolu, excité au mal, dominé, manipulé par Jézabel, une virago, une femme-homme de la pire espèce. Et elle est donc une fanatique adoratrice de Baal et d'Astarté, ces divinités assoiffées de sang et de débauche. Et c'est à partir de là, à partir de l'entrée d'Akab dans son règne, que va commencer une ère extrêmement difficile et scandaleuse pour le royaume du Nord. Une ère de persécution, c'est nouveau, c'est la première fois dans l'histoire d'Israël que les authentiques disciples de l'Éternel, les authentiques croyants, sont ouvertement persécutés. Que la persécution est organisée à l'échelle nationale. C'est la première fois. On va retrouver le même problème du temps de Manassé. Mais il n'y a pas que ça. C'est la première fois à l'époque d'Omri, puis d'Akab et de Jézabel, et cela on le sait par la tradition juive, par des récits donc qui sont parallèles aux Écritures, que l'esclavage va devenir une sorte de moyen de faire du business en Israël. Il y avait déjà un esclavage larvé à l'état artisanal, domestique, mais maintenant, ça devient une sorte de commerce à grand profit. Et il va y avoir des échanges énormes avec Israël, le royaume du Nord, comme plaque tournante d'esclavage dans cette région. Et puis, c'est une époque d'urbanisation. Jusque-là, le royaume du Nord, comme tout Israël à part Jérusalem, était une région agricole où on cultivait le sol et où on s'occupait des troupeaux. À partir d'Omri, il va y avoir un grand programme d'urbanisation, c'est-à-dire de construction de villes. On va construire de grandes villes, on va construire Samarie, hein, c'est l'époque de la construction de cette ville de Samarie, et avec l'urbanisation, d'Israël, il va y avoir d'énormes problèmes. Les paysans vont être de plus en plus lésés parce qu'ils ne recevront pas des compensations financières. Il va se poser exactement les mêmes problèmes qui peuvent se poser aujourd'hui lorsque on veut bâtir au nom du roi, n'est-ce pas, et qu'on a besoin de terrains qui appartiennent à quelqu'un. Donc c'est une période très difficile, les paysans sont au chômage, il y a de la révolte et de l'amertume dans les cœurs, on profite de cette situation pour exploiter les paysans en leur donnant du travail et en les payant mal. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer qu'au 9e siècle avant Jésus-Christ, se passait exactement ce qui se passe dans notre société d'aujourd'hui avec l'urbanisation. On voit monter une classe sociale de nouveaux riches, de gens cupides, de gens qui n'hésitent pas à être cruels et à marcher sur ce qui les entoure pour parvenir à leur fin, parce que, n'est-ce pas, avec l'argent, soi-disant on est puissant, on peut faire n'importe quoi. Nous pourrions passer des heures à simplement voir de très près toute cette régression terrifiante d'Israël qui a commencé avec Omri et qui s'est poursuivie à l'époque d'Akab et de Jézabel. Voilà pour un portrait rapide. On peut souligner peut-être dans 1 Roi 16 le verset 34 parce qu'il est intéressant, hein, de son temps. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Voilà, par exemple, un tout petit élément qui appartient à l'urbanisation de cette époque. Hiel de Bethel fait partie de ces constructeurs sans scrupules qui construisent au mépris de la parole de Dieu. Il y a un profond mépris de la parole de Dieu à cette époque. Et Hiel de Bethel va donc construire, en passant par-dessus, une parole prophétique de malédiction prononcée par Josué presque 5 siècles auparavant, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que dans certaines traductions, on a rendu le petit mot ou l'expression « au prix de » qui intervient 2 fois d'une autre manière. En effet, en hébreu, on peut rendre cette expression « au prix de » par un autre petit mot « sur ». Hein, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, il en jeta les fondements sur Abiram, son premier-né, il emporta les portes sur Ségub, son plus jeune fils. Et on se pose la question, on n'en est pas certain, mais on se pose la question de savoir si Hiel de Bethel n'a pas fait ce qui, hélas, est devenu courant en terre d'Israël dans sa décadence, à savoir, n'a pas organisé une cérémonie au cours de laquelle, à des moments particulièrement stratégiques de la construction, il a offert ses enfants aux divinités païennes, aux Baal et aux Astartés. Tout simplement parce qu'il se trouve qu'on a trouvé en terre d'Israël, à Megiddo et en d'autres lieux, on a trouvé par exemple des vases de pierre très longs, des sortes, enfin qu'on peut considérer comme des urnes si vous voulez, dans lesquelles vous aviez un enfant qui avait été glissé la tête en avant, souvent vivant, et qui était scellé sur la muraille. Vous savez qu'ici, comme d'ailleurs je crois à Genève, n'est-ce pas, on a mis une Bible, à un moment donné, au roc, n'est-ce pas, pour bien marquer le symbole de la place importante que devaient occuper les Écritures dans l'avenir de ces lieux, n'est-ce pas. Eh bien, dans ces cérémonies païennes, eh bien, on offrait des jeunes filles vierges, ou des vieillards, ou des petits-enfants. Et on a retrouvé comme cela des cadavres, notamment celui d'un enfant qui était enfilé dans une de ces longues urnes, une pierre était scellée à l'entrée, n'est-ce pas, et il était coincé en quelque sorte dans la construction. Et c'était des cérémonies païennes qui étaient destinées à, un petit peu, on dirait aujourd'hui, à apaiser le génie du lieu. Hein, il y avait là un peu d'animisme, c'était la relation avec les âmes des défunts, le propriétaire spirituel du lieu, il fallait faire attention. Donc, on lui offrait des sacrifices. Voyez où on en était arrivé à cette époque. Pour terminer, on peut dire qu'il y a trois cercles concentriques qui situent les positions spirituelles des Israélites dans ce royaume du Nord. Il y a un cercle très, très large, le plus étendu. C'est celui qui englobe la grande majorité du peuple. La grande majorité du peuple se contente de suivre le courant obligatoire, le courant religieux imposé par Akab et Jézabel, les autorités de la nation. Puis vous avez un deuxième cercle, plus restreint. Ce sont ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Un roi 19, verset 18, c'est 7000, n'est-ce pas? Mais qui ont de la peine à prendre position, parce qu'ils risquent leur vie, mais Dieu les connaît. Et puis vous avez enfin un troisième cercle, plus réduit encore. Il s'agit de la poignée de résistants. Vous avez Élie, vous avez un certain Michée, fils de Jimla, et d'autres prophètes encore qui sont alors pourchassés, persécutés. Ce sont les commandos de Dieu, ceux qui se démarquent ouvertement. Trois cercles concentriques, avec, dans le plus petit, l'homme qui nous intéresse, le prophète Élie. Troisièmement, sa piété. Sa piété. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. » Quelle entrée en scène impressionnante. Vous imaginez le surgissement de ce bûcheron. On a l'impression de le voir entrer avec sa hache sur l'épaule et fouler ce palais d'Akab qui était extraordinaire. Il y avait énormément d'ivoire dans ce palais parce que l'archéologie est riche dans ce domaine. Vous le voyez, ce bûcheron qui arrive et sans aucun complexe, qui fait cette déclaration absolument fracassante, comme nous le verrons, véritable déclaration de guerre. Et en fait, ce verset premier est aussi une radiographie de sa piété personnelle. Il dit des choses ici qui nous le situent, qui nous permettent de comprendre les qualités de sa piété. Tout le secret de la force et de la hardiesse d'Élie est caché dans cette vigoureuse affirmation « L'Éternel est vivant !» Alors nous, quand on lit l'histoire d'Élie, on lit souvent les Écritures en TGV. Mais vous savez, c'est une déclaration extraordinaire. On ne trouve aucune trace d'une telle déclaration dans les chapitres précédents. Depuis Salomon, c'est fini tout ça. L'Éternel est vivant. J'ai relevé, tenez-vous bien, cette expression, l'Éternel est vivant, 12 fois. Depuis 1 roi 17, verset 1er, jusqu'à 2 rois, chapitre 5. C'est-à-dire dans le cadre du ministère d'Élie. 12 fois. Quand on sait que l'expression « l'Éternel est vivant » ou « Dieu est vivant » figure au total 43 fois dans la totalité de l'Ancien Testament. Vous remarquez la proportion? Pratiquement 28% de ces expressions, cette expression, n'est-ce pas, revient uniquement dans l'histoire d'Élie et d'Élisée. La dominante de l'histoire d'Élie et d'Élisée, c'est cette expression, l'Éternel est vivant. Je suis vivant, dit le Seigneur. Ça, c'est une autre expression qui montre que Dieu confirme 33 fois dans l'Ancien Testament. Alors Élie dit, je ne sers pas les idoles. Je ne sers pas les dieux inertes. Les veaux d'or ne m'intéressent pas. Baal ne m'intéresse pas. Astarté, cette grande divinité de la fécondité avec son culte abominable à caractère sexuel, tout cela, je ne suis pas d'accord. Je sers Yahvé, l'Éternel. Yahvé, je sers le Dieu présent, agissant, intervenant ici, intervenant maintenant. D'ailleurs, je m'appelle Élie, Élia, c'est-à-dire mon Dieu et l'Éternel. C'est fort cela. Et il faut que nous nous approprions cette déclaration. Parce que c'est pour cela que nous l'avons dit. Nous vivons ce temps aujourd'hui. Est-ce que nous sommes de ceux et de celles qui, à cette époque d'idolâtrie absolument incroyable, marchent avec clarté à contre-courant? L'Éternel est vivant. Yahvé, le « je suis ». Il faudrait passer du temps. Hein. C'est la manière dont Dieu se révèle lorsqu'il l'envoie vers ses compatriotes en Égypte. Comment est-ce que je dois t'appeler? S'il me demande, mais au nom de quel Dieu tu viens? Qu'est-ce que je vais dire? Tu diras, je suis. Voilà mon nom. Je suis. Et c'est très riche. L'expression est un temps qui n'existe, en hébreu qui n'existe pas en français, c'est un inaccompli qui veut dire j'étais, je suis, je serai. L'inaccompli, c'est un imparfait qui a valeur de présent et de futur à la fois. Mais qui est d'une richesse. Juste au-dessus, dans le texte d'Exode 3, Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Ce qui peut se traduire, je suis avec toi aussi. C'est encore une de ces expressions. Je suis, Yahvé, avec toi. Et vous avez tous les « je suis » dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Yahvé Tzidkenu, Yahvé Shalom, Yahvé Rapha Orofi, etc. N'est-ce pas? Et que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, parce que Jésus, c'est Yahvé qui sauve, n'est-ce pas? C'est une contraction, Jésus, c'est Yahvé, le Sauveur. Et les sept « moi, je suis, ego, eimi » dans le grec du Nouveau Testament, c'est cet arc-en-ciel extraordinaire du « je suis » qui est venu en Jésus-Christ, au milieu des hommes. Cette carte d'identité de Dieu qui parcourt les chemins poussiéreux d'Israël, le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Le Dieu absolument indépendant, le Dieu absolument immuable qui continue à être, le Dieu absolument suffisant, je suis et je serai avec toi. Ce n'est pas le « je suis » à la mode de notre langue française. Parce que chez nous, « je suis », ben, c'est exister. Dans notre conception occidentale du verbe « être », « être », c'est exister. Chez les Hébreux, « être » est toujours plus qu'exister. Il y a dans le verbe « être » une dynamique, absolument extraordinaire. Être, c'est une présence active, c'est une présence dynamique. D'ailleurs, chaque fois, pratiquement chaque fois, qu'il est dit « l'Éternel est vivant », regardez le contexte. Et vous allez voir que le contexte montre que parce que l'Éternel est vivant, il est agissant. Lorsqu'Élie dit « l'Éternel est vivant », qu'est-ce qui se produit? Le ciel se ferme. Et nous pourrions prendre tant d'autres exemples. Dieu vivant qui coupe les eaux du Jourdain. L'Éternel est vivant, il coupe les eaux du Jourdain. Josué 3. Le Dieu vivant frappe le géant Goliath. 1 Samuel 17. Le Dieu vivant anéantit l'armée assyrienne. 2 Rois 19, du temps du roi Ézéchias. Le Dieu vivant sauve Daniel de la griffe des lions. Daniel 6, verset 19. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. Parce que c'est aussi un des thèmes de l'Épître aux Hébreux. Le Dieu vivant. C'est une expression qui revient à diverses reprises. L'Éternel est vivant. Oh, je suis heureux de servir un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Nous allons le voir dans les prochaines études. Le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Élie était un homme qui se tenait dans la présence de Dieu. Quand il se surgit à la cour du roi Akab, il a passé du temps dans la prière. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve plus. Jacques chapitre 5. Et bien entendu, il a prié pour qu'il ne pleuve plus avant de surgir à la cour du roi Akab.
C'est-à-dire qu'Élie a une vie cachée. Avant d'être présent sur la scène publique, Élie a une vie cachée. Nous y reviendrons. Vous savez, nous n'aimons pas beaucoup la vie cachée. Nous préférons la vie publique. Mais la qualité, l'impact de notre vie publique est déterminé par la qualité de notre vie cachée. Et jamais Élie n'aurait pu se présenter à la cour du roi Achab s'il n'avait d'abord usé ses genoux dans la présence de ce Dieu devant lequel il avait plaisir à se tenir. Et c'est Dieu qui lui a donné mandat. C'est Dieu qui a mis une vision sur son cœur, en accord avec sa parole, et qui a forgé un message, d'abord dans le cœur de son prophète, et qui lui a dit ensuite, va, descends de la montagne, passe de l'autre côté du Jourdain, va au palais d'Akab, et la présente-toi à la cour, et proclame le message que j'ai mis sur ton cœur, je suis avec toi. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve. Élie, un homme de prière, un homme d'obéissance, vous croyez que c'était facile pour Élie de se présenter à la cour du roi Achab et de Jézabel quand on sait la cruauté de Jézabel. Lui était un mou. Il savait tout juste se coucher pour pleurer et bouder quand quelque chose ne l'arrangeait pas, et c'était Jézabel qui prenait les affaires en main, n'est-ce pas ? Mais ça ne devait pas être facile. Et ce qui est extraordinaire dans la vie d'Élie, c'est que Dieu lui a confié des tâches extrêmement difficiles, extrêmement risquées. Vous pourrez relire et relire encore l'histoire d'Élie, vous verrez que tous les mandats que Dieu lui a confiés à Élie ont été des mandats difficiles. Et chaque fois, systématiquement, Élie a obéi. Élie a obéi de manière inconditionnelle. Et pourtant, les messages qui lui étaient demandés d'annoncer étaient extrêmement pénibles. Et il l'a fait même pour un roi de Juda. Le dernier message que Dieu lui a demandé d'annoncer, il lui a demandé de l'annoncer à un roi de Juda. Il était dans le royaume du Nord, et Dieu lui a demandé même de s'adresser à un certain Joram, il y en a eu plusieurs, un certain Joram qui était roi du royaume de Juda. Et c'était un message extrêmement sévère. Et quand Élie lui a dit, quand Dieu a dit à Élie, Élie, tu prends ta plume, tu prends ton papier et tu vas écrire une lettre pour le roi de Juda, Élie a écrit. Et Élie a envoyé le message à ce roi de Juda. Homme qui vivait dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, homme obéissant, inconditionnel de Dieu. Nous terminons avec son message. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Voilà un message solidement biblique, de manière très très claire. Dieu l'avait dit déjà dans Lévitique au chapitre 26 ou dans Deutéronome 11 versets 16-17, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux, il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous voyez, Élie, c'est un homme qui prend Dieu au mot. Il croit que Dieu est sérieux quand il parle. Et il constate que Israël est mûr pour que Dieu accomplisse ses menaces de malédiction. Et c'est la raison pour laquelle, vous remarquez, il y a quand même une chose très frappante. Élie ne dit pas « Ainsi parle l'Éternel, il n'y aura point ces années-ci, rosée ou pluie ?» Pas du tout. Et il dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu se confond avec la parole d'Élie. Élie vit dans une telle intimité avec Dieu qu'il peut proclamer la parole de Dieu sans préciser qu'il s'agit de la parole de Dieu. Il fait bloc, il fait corps, il respire la parole de Dieu. Elle sort par ses pores. Sinon, à ma parole. Dieu est fidèle non seulement à ses promesses de bénédiction, mais aussi à ses promesses de malédiction. Et nous avons tendance à l'oublier. Israël remplit toutes les conditions pour que la fidélité de Dieu se manifeste dans l'accomplissement de ses promesses de malédiction. J'ai parlé dimanche dernier, un certain nombre d'entre vous étaient là, de la bonne main de Dieu. Ce que les théologiens appellent la main droite de Dieu. Mais les Écritures parlent aussi de la main gauche de Dieu. Les théologiens appellent ça la main gauche. Mais il y a aussi cette main qui juge, dont nous n'aimons pas parler. Un commentateur du prophète Amos a écrit ceci: nous avons oublié que notre Dieu peut se changer en ennemi. Nous avons tant parlé du risque de tomber entre les mains de Satan que nous avons perdu de vue la dangereuse éventualité de tomber entre les mains de Dieu, éventualité que nous évacuons, ignorons et oublions à nos risques. Et Élie a eu le courage de parler de la main gauche de Dieu et de dire: Israël, tu es mûr pour que les menaces, les promesses de malédiction de Dieu s'accomplissent. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'exécute. Et sa parole est une parole absolument vivante, agissante. Est-ce que nous le croyons aujourd'hui? Message délivré avec hardiesse, courage, désintéressement, acte de fidélité qui met la vie du prophète en péril. Nous avons parcouru très vite, je sais que c'était dense, ces quatre points: l'homme, son époque, sa piété, son message. Nous avons maintenant une vue d'ensemble de la toile de fond. Et nous allons donc pouvoir, d'une manière plus particulière, à partir de demain matin, considérer les versets suivants, à partir du verset 2. La parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie en ces mots. D'ailleurs, le mot adressé ne figure pas dans le texte original. Elle fut à Élie. Elle fut. C'est à nouveau le sens du verbe être, qui est un verbe dynamique. Elle fut à Élie. C'est une parole vivante, dynamique, de l'énergie d'en haut, capable de bouleverser de manière extraordinaire la vie d'un homme, voire la vie de tout un peuple. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Donc à partir de demain matin, nous allons accompagner notre cher ami Élie jusqu'au torrent. Nous allons voir tout ce qui a pu se passer dans son cœur, en tout cas tout ce qui se serait passé dans mon cœur si j'avais été à la place d'Élie. Il faut que nous nous mettions à la place de ces hommes et de ces femmes dans les Écritures pour peut-être mieux comprendre tout ce que Dieu voulait nous dire au travers de leur histoire. Nous voulons simplement prier. Seigneur, merci, merci de tout cœur pour le livre, pour la Bible, pour ta parole. Nous te remercions parce que ce n'est pas un livre démodé. Ce n'est pas une parole poussiéreuse, tout juste digne de figurer dans un stock de vieux papiers dans un grenier. Oh Seigneur, nous te remercions parce que l'histoire d'Élie, pourtant si lointaine au IXe siècle avant Jésus-Christ, nous apparaît si actuel. Seigneur, combien notre temps, combien notre époque ressemble étrangement au temps d'Élie. Et c'est aussi un aiguillon pour nous. Aiguillon dans le sens d'une ressemblance à ton serviteur Élie. Bien sûr, nous ne sommes pas tous appelés à être chargés du même mandat que lui. Mais tu désires voir en nous des fidèles, des hommes et des femmes qui peuvent vraiment proclamer parce qu'ils le vivent que l'Éternel, le Dieu devant lequel je me tiens, est le Dieu vivant, que sa parole est une parole vivante, agissante. Seigneur, ô saisis-nous de nouveau, rends-nous à nouveau amoureux de toi, de ta parole. Redonne-nous aujourd'hui cette vision de ta personne, Yahvé, notre Dieu, parfaitement suffisant, un Dieu que l'on ne saurait limiter, un Dieu totalement indépendant, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui ne suffit pleinement, le Dieu qui est venu en Jésus-Christ, au milieu des hommes. Merci pour Jésus, merci pour le Sauveur, merci pour mon Seigneur, et merci de ce que la parole a été non seulement incarnée, mais aussi écrite, pour que nous ne perdions jamais de vue la netteté, la beauté de tes traits, de ta personne et de tes œuvres. Seigneur, poursuis-nous tout au long de cette journée, dans chacune de nos activités, dans chacun de nos entretiens, nos partages, dans notre fraternité, dans tous nos travaux, dans nos moments de repos, dans nos moments de promenade. Poursuis-nous avec cette beauté de ta personne, pour que nous ayons à cœur de marcher sur les traces d'Élie, de lui ressembler dans son amour pour toi et dans son désir de t'aimer, de te servir, de t'obéir de manière inconditionnelle, quoi qu'il puisse lui en coûter. Merci de mettre ton sceau sur ce que nous avons partagé, dans le nom aussi précieux du Seigneur Jésus. Amen.